Vous écoutez l'épisode 166 du podcast Mes trucs de prof, dans lequel je reçois Mélanie Rambeau pour parler des espaces à scénario. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes, avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques et par ricochet dans la vie des élèves. Mes trucs de prof est disponible sur toutes les plateformes et également sur le site mestrucsdeprof.fr. Et si vous avez envie de travailler avec moi, je vous propose de faire un tour sur mestrucsdecoach.fr pour découvrir les différents accompagnements que je propose, qu'ils soient individuels ou collectifs. Hello, bienvenue dans cet épisode de podcast un peu spécial par son format. Vous allez l'entendre parce qu'il a été enregistré en format streetcast, ou devrais-je même dire en format métrocast, en marchant dans Paris. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré Mélanie Rambeau, qui est professeure des écoles et aussi autrice des livres sur les espaces à scénario aux éditions Sésame. Et pour la petite histoire, j'ai vu hier que Mélanie était de passage à Paris. Comme ça faisait un moment que je voulais l'inviter au micro du podcast, j'ai sauté sur l'occasion et elle a accepté du jour au lendemain de me faire une petite place dans son emploi du temps qui était déjà bien chargé. Et c'est comme ça que nous avons enregistré cet épisode en marchant. Avant de commencer, laissez-moi juste vous poser le contexte de ce que sont les espaces à scénario pour celles et ceux parmi vous qui se demandent de quoi il s'agit. Donc, tout a commencé en maternelle, mais restez même si vous n'enseignez pas en maternelle, parce que vous allez voir que c'est déclinable, transposable, comme d'ailleurs la pratique de la dictée à l'adulte dont je vous parle dans l'épisode 133. Eh bien, il y a des pratiques qui naissent en maternelle et après, on se rend compte que ça pourrait être sympa, utile, intéressant, au-delà de la maternelle et parfois même jusque dans la formation pour adultes. Donc l'idée de Mélanie, c'est de créer dans les classes des espaces aménagés et décorés sur un thème et d'y proposer aux élèves des scénarios qu'elle conçoit pour développer certaines compétences. Donc elle a imaginé des scénarios comme celui du glacier, de la bijouterie royale ou de la pizzeria. Et ainsi, à partir de ces scénarios, les élèves peuvent développer diverses compétences. C'est donc une modalité d'apprentissage structurée, inspirée du jeu symbolique et du jeu théâtral. Mais attention cependant à ne pas confondre avec les coins-jeux que vous avez peut-être déjà dans vos classes et où les élèves vont souvent jouer librement. Par contre, ça va peut-être vous permettre de revisiter l'usage que vous en faites. Mélanie crée donc des scénarios pédagogiques pensés en fonction de compétences visées et ciblées. Et il s'agit d'une modalité qui va être ludique et transposable, vous allez le voir, bien au-delà de la maternelle. Donc voilà, je vous laisse écouter notre échange qui a commencé dans le quartier des Ternes à Paris 17e, où nous avons pris le métro à Argentine, puis vous suivrez notre périple en métro, accompagné de son ambiance et de ses bruits de fond. Bonjour Mélanie.
Bonjour.
Je suis trop contente de faire ce petit bout de chemin avec toi.
Moi aussi, c'est la première fois que je fais un podcast en marchant.
Moi aussi. Enfin non, je crois que j'ai fait un épisode sur le cahier journal il y a très longtemps. Je marchais pas, j'étais un arrêt de bus.
Ah, mais... ok.
Mais ouais, je trouve ça chouette. Donc pour les personnes qui nous écoutent, en fait, on est en train de marcher dans Paris. Mélanie, elle a eu la gentillesse de me faire une petite place dans son emploi du temps. Donc du coup, on va... rentabiliser le temps en discutant pendant son trajet.
C'est ça, là j'ai un rendez-vous dans une école élémentaire et du coup voilà, on rentabilise le trajet avec un petit podcast entre mes deux créneaux d'emploi du temps.
Ouais, trop bien. Mais avant, j'aimerais bien que voilà, tu te présentes, qu'est-ce que tu as envie de dire à ton sujet ?
Eh bien donc, je suis enseignante depuis 12 ans je crois. J'ai commencé avec des CM2 et ensuite j'ai eu que de la maternelle. Et d'abord, je ne voulais pas avoir la maternelle. Et finalement, j'ai appris à aimer ça assez vite. Ouais. Chaque année, je testais de nouvelles choses. Et puis, je suis venue justement à développer les espaces à scénario. Ça fait déjà... Ça fait quoi ? Je ne sais même plus, 2018, je crois. 2017-2018. Voilà.
Et c'est quoi la genèse un peu de tout ça pour toi? Comment t'as commencé à travailler là-dessus?
Eh ben, en fait, j'étais dans une école avec un chouette public, avec des enfants vraiment très, très débrouillards, motivés et tout ça. Mais cette année-là, ils boycottaient mon espace écriture. Donc j'avais un petit coin écriture basique. Et ça ne les intéressait pas du tout. Et un jour, je suis allée en formation c'était une formation sur aménager la classe en maternelle. Et en fait, pendant cette formation, je n'ai pas toujours très bien écouté ce qu'ils disaient. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait un coin jeu docteur. Et donc c'est vraiment pas... Enfin, c'était un coin jeu libre, hein, comme on connaît. Mais la différence, c'est que j'ai repéré des ordonnances. Alors, il y avait tout un tas de choses, des radios, des ordonnances, un stéthoscope, hein, tous les jouets ordinaires du docteur. Et je me suis dit, mais c'est ça qui manque à mon espace d'écriture. C'est une ordonnance, un sens, quelque chose qui est un but. Et c'est de là que tout est parti.
Génial. Ouais, c'est vrai que les coins jeux dans les classes, ils existent depuis toujours, j'ai envie de dire, en maternelle. Mais on pense pas forcément à les exploiter. Hop, alors attends. Là, c'est mon billet qui passe pas. Donc on comprend.
Nous sommes donc dans le métro.
Oui. Donc en fait, ce que tu disais, c'était que... On a les coins jeux dans les classes de maternelle. On ne sait pas toujours comment les exploiter et comment les utiliser. Donc toi, tu ressors de cette formation avec la révélation de dire « Ok, il faut que je... »
En fait, moi, j'avais plus de coins jeux depuis déjà 3-4 ans parce que j'étais dans une réflexion sur l'aménagement de la classe. Tu sais, essayer d'organiser des ateliers autonomes par domaine et donc ça prenait beaucoup de place. Donc ça faisait déjà 3 ans que j'avais arrêté les coins jeux. Et par contre, effectivement, j'avais un espace d'écriture qui était un espace de travail, mais que j'arrivais pas à rendre motivant pour les enfants. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais rapporter un petit peu de conjeu dans mon espace de travail, qui était l'espace d'écriture, en mettant les ordonnances. Et donc, en un week-end, j'ai écrit tout ce que j'avais pas encore nommé comme scénario, en fait, mais j'ai écrit quelque chose qui me permettrait de motiver mes élèves, et ça a super bien marché. Et donc après, tout ce que je voyais, ça me donnait envie de créer des espaces, quoi. Oui, donc je savais pas comment l'appeler, et je me suis dit, ça va être un espace, et l'idée, c'est de faire un espèce de jeu de rôle entre les enfants, donc un scénario, un peu comme une pièce de théâtre. Et voilà, c'est comme ça que c'est né.
Ah, trop bien, trop bien. Et donc du coup, le premier espace que tu as mis en place dans ta classe, c'était...
Le docteur.
Le docteur, ouais. Ok.
Et après, en fait, j'arrive plus bien à me souvenir de l'ordre, parce que pour moi, le glacier, ça a toujours été le premier, mais en fait, non. Parce que je me souviens très bien que j'ai commencé par le docteur après cette formation. Mais ensuite, très vite, il y a l'espace docteur et... glacier et pizzeria qui sont arrivés, que j'ai créé pour la rentrée d'après, ma nouvelle classe. Et puis après, je m'arrêtais plus. Voilà, j'en ai créé plein d'autres après.
Super. Et donc du coup, comment tu les définirais toi aujourd'hui, maintenant que tu as trouvé un nom, comment t'en parles?
Pour moi, en fait, c'est un espace défini dans la classe, qui est un espace de travail. Même si ça a l'apparence d'un espace de jeu, c'est un espace de travail. Et ce qui fait un peu les caractéristiques, c'est qu'il y a deux rôles bien définis pour les enfants et surtout des compétences, des objectifs très ciblés et qu'eux aussi connaissent. Ça veut dire qu'ils savent que quand ils vont dans cet espace, ils vont travailler soit l'écriture, soit le dénombrement, mais ils savent vraiment que c'est un espace de travail.
Ouais. Est-ce que tu as gardé dans ta classe des espaces de jeux symboliques sans scénario?
Non, du coup, comme je te disais, ça faisait déjà 3 ans, 4 ans quand j'ai créé ça que j'en avais plus. Et donc, depuis, j'en ai plus dans ma classe. En fait, j'ai toujours eu un problème de place. Et après, finalement, une fois que j'ai créé les espaces à scénario, je trouvais que ça comblait un peu ce manque. Parce que malgré tout, même si c'est un espace de travail, ils jouent, ils sont trop contents d'aller là-dedans. Donc non, j'ai pas d'espace de coin symbolique dans ma classe.
Ok. Et donc, du coup, à quelle fréquence ils y vont dans la journée ou dans la semaine?
Ils y vont quand ils veulent, sur les temps d'atelier. Donc en fait, c'est pour ça que c'est important pour moi de le faire à ce moment-là. C'est pour que... heureusement que je suis le métro, hein. J'ai failli rater le métro, la station. Oui, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Je sais déjà.
On a un petit peu d'ambiance, là.
Ah oui, à quel moment dans la classe?
Ah oui, merci. Voilà.
Donc, ouais, je disais que c'est hyper important, en fait, que ce soit pendant les temps de travail. Moi, j'ai jamais voulu le proposer à l'accueil, par exemple, parce que j'ai toujours peur que si c'est pas bien rangé dans la catégorie temps d'atelier, les enfants aient tendance à plus respecter les consignes et à vouloir retrouver ce jeu libre dans l'espace. Donc, et puis bon, comme j'ai quand même à peu près trois créneaux par jour d'atelier, ça leur laisse largement le temps d'y aller. Et je pense aussi que si je l'ouvrais sur le temps d'accueil, bah peut-être qu'au bout d'un moment, ils se lasseraient puisqu'ils l'auraient vraiment beaucoup à disposition. Donc en fait, ils l'ont tous les jours, 2 à 3 fois, selon le nombre d'ateliers que j'ai en classe. Et ils peuvent y aller autant qu'ils veulent. C'est comme un espace, comme un atelier autonome en fait. Pendant D'accord. les temps d'autonomie, ils choisissent. Soit ils prennent un petit travail tout seul, soit ils vont dans l'espace autonome.
Ok. Et du coup, alors, tu les programmes dans ton année selon une progression. Est-ce que tu les fais coller à d'autres projets
Alors, tu les choisis. C'est une bonne question, mais je ne l'ai jamais posée, je crois, celle-là. Alors non, c'est vrai que je travaille beaucoup en projet et je vois que parfois les enseignants qui me suivent sur Instagram, ils essayent de transposer un peu pour que ça colle avec leur projet. Mais pour moi, encore une fois, comme c'est vraiment un espace de travail, les enfants en classe, je fais beaucoup de projets, mais ils savent aussi qu'on vient à l'école pour apprendre. Et donc, ils savent aussi qu'il y a des activités qui sont décrochées du projet et ça leur pose aucun souci. Et donc, non, j'ai jamais transformé pour que ça colle avec un projet parce que bon, c'est quand même beaucoup d'investissement de tout créer. Donc, une fois que c'est fait, c'est un luxe de pouvoir le ressortir. Assez facilement, parce que bon, il faut quand même préparer tout le matériel. Et une fois qu'on l'a fait, c'est dommage de ne pas s'en servir. Par contre, le seul espace qui est un petit peu plus en lien avec un thème, c'est le bijoutier du roi et de la reine. Parce que bah, d'ailleurs, ça plaît beaucoup dans les classes, parce que c'est en lien avec la période 3, la galette. Donc les enseignants aiment bien l'utiliser.
D'accord. Donc, ok, donc c'est en fait vraiment un espace de travail avec des objectifs clairs, tu disais, pas ouais. forcément rattaché à un projet. Du coup, que les élèves, dans lequel les élèves vont plutôt en autonomie. Est-ce qu'il y a des scénarios où toi t'interviens ? Comment tu te positionnes ? Est-ce que t'es en observation ?
C'est en autonomie, mais seulement une fois que. Alors, attends, c'est quelle direction ? Ok. C'est en autonomie, mais seulement à partir du moment où le scénario a été travaillé en atelier dirigé.
C'est ça.
Voilà, donc d'abord, je le travaille en dirigé avec les enfants pour être sûr que le scénario est bien compris, qu'ils ont identifié les attendus, les objectifs. Et ensuite, quand j'ai fait passer tous les enfants, il est ouvert en autonomie, mais au début, je suis toujours autour. Quoi. Je tourne autour pour vérifier si tout se passe bien, si les enfants sont capables de travailler dans cet espace correctement en autonomie. Et ensuite, ben, c'est bon, ça roule. Après, il faut toujours, bien sûr, il faut toujours un petit regard, surtout quand on a les petits, parce que les grands, une fois qu'on a repéré qu'ils avaient compris, ça fonctionne très bien. Les petits, ils ont tendance à vouloir quand même un petit peu détourner les règles. En général, ma classe n'est pas très grande. Et donc, ma table, elle est toujours placée de telle sorte que je vois tout le monde. Et ça me permet... Enfin, j'ai toujours un œil sur ce qu'ils font en autonomie, même les ateliers autonomes. J'ai toujours un œil quand je suis en atelier dirigé. Et du coup, l'avantage, c'est que si je vois un petit ou deux petits ensemble, j'ai tendance à dire vite un grand pour aller les aider s'il y a besoin sur les scénarios complexes. Parce que, par exemple, pour le bijoutier du roi et de la reine, les petits s'en sortent bien tout seuls. Mais c'est vrai qu'avec un triple niveau, il faut réussir parfois à trouver le juste milieu entre les scénarios. Et donc, j'aime bien avoir l'aide des grands aussi de temps en temps quand il y a besoin.
Est-ce que c'est des espaces que tu évalues ? Est-ce que tu évalues après ce moment d'autonomie ? Ou est-ce que quand tu les laisses en autonomie, tu as déjà évalué suite à ces ateliers dirigés-là ?
Alors, j'admire quand même ta façon de réagir tout le temps à ce que je dis alors qu'on est en train de marcher dans Paris. Déjà, moi, j'arrive pas à finir une phrase et toi, tu as ton script en tête. Donc l'idée de l'atelier dirigé qui arrive à la fin de la séquence, donc c'est une activité d'entraînement, ça me permet, moi, d'évaluer, de noter les enfants pour qui la compétence n'est pas encore acquise et pour qui ça va être plus difficile. Et comme ça, après, quand les enfants sont en autonomie dans l'espace, je vais aller vérifier si l'enfant que j'avais repéré est capable de s'en sortir, s'il a encore besoin d'aide. Donc voilà, c'est comme ça en fait que j'évalue beaucoup d'observations.
Et quel
quelle plus-value tu peux formuler, enfin je pense que tu les as en tête, mais pour les personnes tu vois qui se sont pas encore lancées, quelle plus-value tu observes, tu vois dans le fonctionnement de ta classe par rapport à ce que tu faisais avant?
Bah, en fait, ce que je trouve super, c'est que ça propose une autre forme de travail aux enfants, parce que dans la classe, ils ont les ateliers dirigés, donc que tout le monde connaît, les ateliers autonomes individuels, et là, ça apporte une autre forme de travail, c'est l'atelier en duo, en binôme, et c'est une vraie plus-value pour les enfants qui ont du mal à travailler en autonomie. Comme c'est un créneau où ils ne sont pas avec l'adulte, au moins, ils peuvent aussi aller vers ces espaces qui les rassurent un peu de travailler en duo, et donc les enfants, ça les motive beaucoup. Et en fait, bah, plus il y a de formes de travail différentes qui sont proposées, plus on a de chance que les enfants réussissent, parce que c'est des compétences qu'on peut aussi retrouver dans les ateliers autonomes. Par exemple, pour, je sais pas moi, le bijoutier du roi et de la reine. Alors non, pas le bijoutier du roi et de la reine, un autre. Parce que celui-là, il faut nommer, donc en autonomie, c'est plus compliqué. Par exemple, la pizzeria, pour dénombrer des aliments. Ben, c'est une activité qu'on peut aussi faire en atelier autonome. Les enfants vont être amenés à avoir des activités individuelles où ils vont pouvoir s'entraîner à dénombrer. Mais ben, l'avantage, c'est qu'ils ont plusieurs occasions de le faire, en dirigé, en autonomie et en scénario. Et il y a des enfants qui, au contraire, n'aiment pas trop travailler avec les scénarios. Et l'idée, c'est qu'ils puissent vraiment naviguer comme ils veulent en fonction des personnalités de chacun.
Ouais. Donc du coup, en fait, tu proposes des scénarios. Donc, en gros, un scénario, c'est du coup une petite scénette que tu proposes un déroulé. Mais ils peuvent aussi y aller ajouter leurs petites touches et modifier.
Non, ça non. Par contre, alors si, bien sûr, ils ajoutent toujours leurs touches dans tout ce qui est langage. Par exemple, j'ai le studio de yoga, où les enfants doivent décrire des postures dans le niveau le plus difficile et dans le niveau plus simple, juste nommer les postures de yoga, et l'enfant qui joue le rôle de l'élève, lui doit les reproduire. Mais j'ai une élève, elle était hyper motivée par ce scénario, donc en fait à chaque fois elle rajoutait plein de phrases et d'imaginaires dans l'accueil du client, dans s'il vous plaît veuillez vous mettre sur votre tapis, enfin plein de choses qui n'étaient pas attendues, mais ils développent tout ce qu'ils peuvent autour. Après par contre, dans les... Donc en fait, je ne l'ai pas encore dit, mais dans les espaces à scénario, il y a des niveaux de difficulté. Et ça, en fait, c'est 3 ou 4 niveaux qui sont vraiment bien définis, et je ne les laisse pas les changer parce que sinon, ils n'atteindront pas les objectifs visés. Après, par contre, si en amont, ils me disent « Ah tiens, j'aimerais bien proposer cette idée », je me dis « Allez, pourquoi pas, je vais y réfléchir ». Et alors moi, je la mets en place de manière structurée. C'est vrai que je suis quelqu'un d'assez organisé, et donc je ne suis pas trop à les laisser... le modifier de manière un peu spontanée, parce que j'ai quand même envie qu'il y ait un cadre pour bien leur rappeler que c'est un espace de travail, et ça fonctionne très bien.
Trop bien. Et donc est-ce que t'as déjà imaginé ou essayé de les filmer et de leur remontrer à eux ce qui se passe?
Eh ben non, j'ai jamais pensé, c'est une super idée. Je les filme souvent pour garder des traces, mais c'est vrai que je pense pas leur montrer. Faudrait que je fasse ça. C'est une très bonne idée. Là, j'ai filmé parce que je vais faire une formation à Singapour pour une école française.
Génial.
Qui veut ouvrir qui a déjà une école maternelle, mais qui va en fait ouvrir une école, refaire leur maternelle après des travaux. Et ils veulent vraiment se centrer sur les espaces à scénario parce qu'ils ont notamment beaucoup de langues à l'intérieur de l'école. Et voudrait un espace pour travailler les langues. Et donc, on m'a demandé de faire des petits films. Et donc, j'ai des parents qui m'ont donné l'autorisation de les filmer. Ce qui fait que là, j'ai pris le temps de filmer les enfants en situation, surtout mon élève non francophone. Et c'est vrai que c'est super chouette de pouvoir leur remontrer. J'y ai pas pensé. Je vais faire ça.
Ok, chouette. Contente de t'avoir donné une idée.
Ouais.
Toi, quand t'as commencé, t'avais quel niveau ?
J'avais, je sais plus. En fait, j'ai toujours alterné entre petit, moyen, grand, petit, grand, okay. Petit, moyen. Enfin voilà, mais je crois que j'avais des petits, moyens, grands.
Ouais. Et donc, du coup, ma question, c'est est-ce que tu penses que, du coup, les espaces à scénario, on pourrait les transposer, et de quelle manière? Et jusqu'à quel âge, quel niveau?
Et bien donc là, ils sont dans mes 2 premiers tomes, c'est déjà adapté de la petite section à la grande section, en sachant qu'il y en a qui arrivent à adapter aussi, enfin dans le livre c'est rédigé de la petite à la grande section, parce que j'ai jamais eu en fait de tout petit, donc je me voyais pas écrire pour ce niveau qui est quand même très spécifique. Mais dans les variantes, il y a tout le temps du langage dans le livre, toujours une variante proposée, et donc les enseignants de toute petite section arrivent à s'approprier les espaces à scénario grâce aux variantes de langage. Et donc là, je suis en train d'écrire un troisième livre qui sera pour l'école élémentaire. C'est d'ailleurs pour ça que je suis à Paris, parce que là, je vais dans une classe d'une collègue qui teste un espace à scénario que j'ai écrit. Donc en fait, je leur envoie, j'ai une petite équipe de testeuses. Et donc là, je vais aller voir quand même comment ça se passe. Et donc lui, il sortira l'année prochaine. Et donc oui, c'est tout à fait transposable à l'école élémentaire. C'est vrai que moi, j'ai eu des CM2, mais il y a longtemps, donc j'avais besoin de retourner un peu sur le terrain. Mais finalement, c'est limite encore plus facile, je trouve, à mettre en place en élémentaire, parce que ben, déjà, ils ont la lecture. Donc ça permet, au niveau du matériel, ça demande beaucoup moins de travail que de tout imager. Et en fait, ils sont tellement contents de pouvoir utiliser un espace de travail beaucoup plus ludique pour eux. Là, la collègue que je vais voir, je lui avais dit, oh, essaye de fabriquer le matériel avec... Enfin, c'était pour fabriquer... Bon, je peux pas dire ce que c'est, mais... Je lui ai dit d'utiliser de la pâte autodurcissante pour que ce soit vraiment quelque chose qui ressemble, qui soit concret et tout. Et elle m'a dit, oh, mais j'ai pas le temps, je vais faire en imprimé plastifié parce que je viens la voir là, donc elle était un peu prise par le temps. Elle m'a envoyé une photo hier, les enfants ils ont écrit au tableau vive là, bon je vais pas dire le dernier mot, mais le magasin quoi, en gros, que j'ai créé. Elle m'a dit regarde, ils sont fans même avec des trucs plastifiés, en fait ils sont tellement pas habitués à cette forme de travail que c'est super pour les plus grands.
Ouais. Et quels sont les domaines du coup que ça permet de travailler là pour toi dans tes propositions en tout cas?
Bah, pour la maternelle déjà je travaille tous les domaines, j'ai même réussi à mettre la motricité. Avec l'espace pétanque et l'espace yoga qui travaille la motricité en classe. Et pour l'école élémentaire, d'abord, je m'étais dit que j'allais vraiment me fixer sur français maths, puisque j'ai qu'un livre. Enfin, pour le maternel, j'ai deux livres, donc ça m'a permis d'aller un peu plus loin dans les domaines. C'est vraiment adaptable dans tout plein de domaines différents. Mais là, je m'étais dit, je vais surtout me focaliser sur français maths. Finalement, je commence un petit peu à prendre des libertés pour le cycle 3. Donc voilà, je vais voir. Ouais. C'est pas encore tout défini.
Ouais. Non, mais après, l'avantage, c'est vraiment que, voilà, comme tu dis, ça permet des mises en situation. Et donc, du coup, d'aller travailler, que ce soit des compétences langagières ou des compétences mathématiques. Mais on peut effectivement, sur le vocabulaire de toutes les disciplines, aller chercher plein de choses, quoi. Et puis, même au-delà, je m'imagine que, enfin, tu vois, même au collège, au lycée pro, oui, il y a plein de situations qui se prêtent à des simulations, à des mises en situation pour pouvoir varier les modalités, quoi.
En fait, ça s'inspire un peu de ce qu'on propose pour l'apprentissage des langues. C'est vrai qu'au collège, au lycée, on fait aussi des CNET, ce genre de choses, parce que c'est vraiment les situations concrètes qui permettent aux enfants d'apprendre et d'être motivés. Donc finalement, oui, ça pourrait tout à fait s'adapter. Après, là, j'ai quand même rencontré des difficultés pour le cycle 3, parce que comme ils travaillent avec des très grands nombres, il faut vraiment trouver des idées différentes pour réussir à faire des maths, parce que c'est vrai que voilà, une pizza qui coûte 999 000 euros, ça fait un peu cher. Donc ça me demande de creuser davantage, de me creuser un peu plus la tête. Mais en tout cas, oui, on peut carrément adapter au plus grand.
Ouais. C'est vrai que les pizzas, ça se prêterait aux fractions, mais sur les grands nombres, ça devient un peu compliqué.
Prévu. Mais voilà, là, du coup, je vais être obligée de révéler en avance. C'est le prochain que je vais tester en classe, ce sera la pizzeria pour les fractions. Alors, je pense rester là-dessus, mais bon, au cas où d'ici là, je change d'avis, je préfère le dire, mais normalement, je reste là-dessus. J'ai commencé à l'écrire hier dans un café à Paris, entre deux rendez-vous. Et effectivement, en fait, quand j'ai créé ça, je me suis tout de suite dit, parce que j'avais des CM2 à l'époque, il y a longtemps, quand je l'ai créé, la pizza pour la maternelle, je me suis tout de suite dit, ce serait parfait pour l'école élémentaire et les fractions, parce que moi, je comprenais rien en fractions quand j'étais enfant. Je me disais qu'une pizza, c'est quand même nettement plus sympa, quoi.
Ouais, moi, j'avais tout un truc sur les pizzas, justement, avec des trucs à couper, que j'avais plastifié, pareil, tu vois, et dans ma tête, j'avais pas encore l'idée espace à scénario, j'aurais pu le rendre encore plus ludique.
Bah, c'est ça. C'est vrai que la pizza, on voit beaucoup hier dans la classe. Hier, j'ai aussi observé une collègue qui teste, et dans sa classe, elle avait une activité autonome avec des petites cartes avec des pizzas où il fallait effectivement trouver la part correspondante, enfin voilà, et avec des fractions. Et je me suis dit, tout ça existe depuis longtemps, mais l'idée c'est de le passer à un autre niveau en fait, à un niveau vraiment avec du matériel plus grand, un échange entre deux enfants et différents niveaux de difficulté aussi. Et ça, c'est hyper important pour permettre aux enfants d'avancer en étant plus confiants. Ouais. Parce que si on met quelque chose de tout de suite trop dur pour eux, ils vont pas forcément oser s'investir.
Ouais, ça les motive. Il y a plusieurs, du coup, il y a plusieurs leviers de motivation. À la fois, il y a le fait de pouvoir entrer dans la tâche par quelque chose de facile qui est motivant et de se trouver en situation de réussite. Ouais. Il y a le fait que ce soit ludique et que ça change de modalité. Il y a aussi l'autre, enfin, qu'ils soient en autonomie, qu'ils puissent prendre un peu de liberté, pas forcément par rapport au script que tu leur proposes.
Bah, ouais. L'idée, c'est vraiment ça, c'est en fait d'amener aussi une réflexion sur les modalités de travail en élémentaire. Parce que finalement, il y a plein de classes flexibles super chouettes, mais la grande majorité, ça reste encore des classes très très traditionnelles où finalement l'autonomie est réservée aux enfants qui avancent bien tout seuls
et qui ont terminé leur travail.
Voilà, c'est ça. Et ouais, l'idée, c'est que les espaces à scénario ils soient disponibles pour tous en fait.
Oui, oui. Donc, non, mais ça, c'est vraiment chouette. Moi, j'avais des collègues, Jean-Vincent et Florian, si vous écoutez, qui étaient venus nous présenter. Comment mettre en place le jeu du marchand et de la marchande en élémentaire et travailler les compétences mathématiques. Et ça fonctionne bien avec les élèves. Et parfois, on a l'impression qu'ils pourraient se lasser, qu'ils sont trop grands, mais en fait, ils sont trop contents.
Mais non, ouais, c'est ça. Moi, j'ai un peu hésité. C'est vrai, là, je m'étais dit, est-ce qu'ils vont encore vouloir jouer à la pizzeria? Et en fait, j'ai observé un peu les enfants hier en classe et dans la cour quand j'étais dans la classe de CM1. Mais en fait, ça reste des enfants. Ils sont juste heureux de pouvoir manipuler et jouer, quoi.
Est-ce que, parce que je sais que quand on écrit un livre, on est parfois contraint par le format, le nombre de pages, etc.
Tout à fait.
Est-ce qu'il y a des choses que, après coup, tu aurais voulu ajouter ou préciser, tu vois, dans les premiers livres, ouais.
Bah, il y a toujours des choses que j'aurais voulu ajouter. Par exemple, là, il y a l'espace, La fabrique à bonheur, elle est en format numérique quand on a les deux tomes. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé que ça rentre dedans. Après, évidemment, ça faisait trop de matériel, donc beaucoup plus cher. Donc voilà. Après, oui, j'ai encore d'autres scénarios que j'avais pour la maternelle, mais que j'ai pas mis dedans parce qu'en fait, on était parti vraiment sur l'idée de faire deux scénarios par période. Et donc, on était contraint par le nombre d'espaces. Mais bon, après, des fois, c'est pas plus mal d'être obligé de se limiter un petit peu.
Ouais. Et en termes de toi, pour la mise en place, la précision, est-ce qu'il y a des écueils à éviter ou des choses qui sont importantes pour toi?
Oui, en fait, souvent, on a tendance à penser que quand on voit les visuels dans le livre, ça suffit et qu'on ne va pas lire. Mais si, il faut lire parce qu'il y a plein de détails dedans. Il y a l'intro surtout qui est hyper importante à lire. Alors, je sais qu'en général, on aime bien passer cette partie, mais déjà, j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire, donc ce serait super de la lire. Et ensuite, elle est très importante parce qu'elle explique vraiment les règles de base. Et c'est vrai que des fois, j'ai des messages d'enseignantes qui me disent « Bah écoute, je comprends pas, quand ils font la queue, ils s'agitent. » Je lui dis « Bah oui, mais est-ce que tu as lu l'intro? Est-ce que tu as regardé comment je conseille de faire ?»« Ah non, pas du tout, je vais y aller, tu vois. » Il y a quand même beaucoup. En fait, c'est vraiment pas laissé au hasard. Tout est tellement pensé. Je l'ai dit, je suis quelqu'un de très organisé et du coup, c'est vraiment très précis. Et hier, je l'ai vu par exemple à l'élémentaire. Il faut pas se dire non plus que c'est une activité complètement autonome quand elle est en autonomie. Il faut vraiment toujours avoir un regard, aller regarder les cahiers de ce que font les enfants, vérifier à l'intérieur, aussi solliciter les enfants qui ont besoin d'aide. Et quand on voit que ça commence à déraper un petit peu, tout de suite rappeler les règles. C'est vraiment, il faut être très carré.
Et puis, en fait, c'est aussi une question de cadre. Je pense que ce qui est important, c'est de se dire que c'est pas que joli, en fait. C'est pas que joli dans la classe. Tout fait partie du cadre. À la fois, l'esthétique, ça fait partie du cadre parce que ça permet de cadrer, de poser un contexte et un cadre. Mais il y a aussi toutes les consignes, toute l'organisation, tout le suivi et tout ce que tu disais au début qui fait qu'en fait, il y a des objectifs et tu as bien précisé. Les élèves, ils savent qu'ils sont en train de travailler. Et parce que sinon, en fait, ça revient à faire...
Un coin-jeu amélioré
ou pas, parce que si en fait on n'a pas la posture, le cadrage, le lancement qu'il faut, c'est pas parce qu'on aura vite fait annoncé un scénario aux élèves que ça fonctionnera.
Et d'ailleurs, je le vois beaucoup sur les réseaux, c'est que souvent on me tague, alors c'est super, je fais très attention à ça, j'aime bien qu'on respecte mon travail, qu'on me mentionne, etc. Mais des fois on me mentionne, c'est pas du tout un espace à scénario, c'est un coin-jeu, et certaines personnes en fait n'ont pas ne connaissent pas en fait le détail de mon concept parce qu'ils n'ont pas le livre, parce qu'ils n'ont pas vraiment cherché. Après, si tu n'as pas le livre, il n'y a pas vraiment d'infos ailleurs. Donc, il faut quand même prendre le temps de lire. Et du coup, bah, finalement, c'est des coins-jeux qu'ils appellent espace à scénario parce que c'est un peu le terme qui devient à la mode, mais c'est vraiment un concept en fait. Et donc, c'est important de lire et de se renseigner.
Ouais, ouais. Et c'est ça qui change tout. Et je trouve que c'est important que tu le rappelles parce que, de manière générale, à chaque fois qu'on met un nom sur un concept, le nom parfois finit par cacher ce qu'il y a derrière et on se l'approprie ou on l'utilise un peu à tout va en oubliant les fondements, ce qui en fait la spécificité. Et là, l'idée, c'est ok, l'idée, c'est parti de pimper le coin jeu, mais au final, c'est y mettre des objectifs, c'est proposer quelque chose de progressif pour les élèves, décider aussi de compétences qu'on y travaille et qu'on va clarifier aux élèves. Ça a apporté un cadre, une organisation qui fait que c'est possible et que les élèves y puissent y apprendre, apprendre en jouant, mais apprendre quand même.
Ouais.
Et il ne faut pas oublier cette partie.
Il y a un autre écueil auquel je pense, c'est que souvent, on a tendance à vouloir tout mettre dans l'espace. Ah, mais c'est super la pizzeria, on peut écrire les menus, et puis on peut aussi faire de l'anglais pour dire bonjour et commander, et puis en même temps, on va payer. En fait, pour moi, c'est vraiment... Je sais que des fois, c'est frustrant, mais c'est vraiment important pour moi de cibler. Et encore une fois, ça m'arrive de voir sur les réseaux mes espaces à scénario qui sont super bien mis en place et tout. Mais je vois qu'on ne peut pas s'empêcher de rajouter des compétences. Mais l'idée en fait de cibler, c'est qu'on évalue aussi une compétence précise. Et du coup, si l'enfant il doit à la fois passer sa commande en anglais, écrire le menu commandé et ensuite demander de payer, ben, on ne saura pas s'il aura réussi ou échoué à ce travail parce qu'il y a trop de compétences qui sont mélangées. Et c'est pour ça que dans mes scénarios, je fais vraiment progresser la difficulté sur un domaine de compétences.
Ouais, ça c'est génial et en plus en fait c'est transposable partout et souvent quand on va dans les classes même sur autre chose que des espaces à scénario, quand il y a trop de compétences et quand on n'a pas ciblé ce qu'on est en train de travailler, on fait tout, on est sur un thème et du coup l'écueil espace à scénario ou pas, c'est d'être sur un thème. On est sur le thème de la pizza et on fait un peu tout.
Ça.
Mais qu'est-ce qu'on apprend concrètement? Et si on veut que les élèves soient au clair sur ce qu'ils sont en train de faire, pourquoi ils le font, ce qu'ils sont en train d'apprendre, à quoi ça va leur servir, on est obligé de cibler pour leur dire et pour aussi focaliser leur attention sur ce qu'on veut qu'ils apprennent.
C'est ça.
Tout à fait. Bah, c'est super. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie d'ajouter tant que tu as le micro
Que j'ai toujours plein de projets, que j'espère que vous allez suivre. Là, je suis en plein travail pour monter un site internet. Ça me prend énormément de temps. Et je serais super contente que je puisse vous retrouver sur cette plateforme-là et suivre un peu tous mes projets qui partent toujours dans tous les sens. Mais je suis trop motivée par ce métier. Donc voilà, j'essaie de me calmer, promis. Mais voilà.
Faut pas te calmer, c'est trop bien la créativité.
C'est
et
ça.
Puis le partage aussi, le fait de pouvoir
j'adore
diffuser,
pouvoir être sur les réseaux et partager, c'est vraiment super épanouissant.
Trop bien.
Voilà.
Bon, et merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé.
De rien, merci à toi. C'était vraiment très chouette comme expérience. J'espère qu'on m'entend pas trop souffler à force de parler de marché, mais c'était super.
Non, je pense pas. Et puis j'espère que le son, qu'on n'entend pas trop les camions, ce qu'il y a derrière.
Il y a eu beaucoup de bruit de fond, mais ça rend ce podcast très interactif et vivant.
Voilà, merci beaucoup, Mélanie.
Merci à toi.
Voilà, donc si on récapitule, les espaces à scénario, ce sont des espaces de la classe qu'on aménage pour permettre aux élèves de jouer des scénarios qui leur sont proposés par l'enseignante ou l'enseignant. Ces scénarios s'inspirent de situations réelles et permettent aux élèves de les mettre en scène. Ils sont d'abord introduits et travaillés avec l'adulte avant d'être mis à disposition des élèves en autonomie. Et puis, ces scénarios, ils ont pour objectif de mobiliser ou travailler, développer certaines compétences. Ce peut être des compétences langagières, des compétences mathématiques, mais aussi des compétences de tout autre domaine, voire même des compétences psychosociales. Et ils peuvent permettre de travailler parfois sur des tâches même complexes parce qu'elles sont contextualisées. En fait, ces espaces à scénario, ils vous offrent une autre manière d'utiliser les coins-jeux qu'il y a déjà dans vos classes de maternelle ou une façon de les renouveler ou d'en créer de nouveaux. Ça vous, peut aussi vous inspirer des espaces et des scénarios pour travailler certaines compétences autrement. Et vous pouvez même, du coup, on l'a vu, le transposer au-delà de la maternelle, dans certaines situations, dans les classes de langue, dans, en cycle 3, en cycle 2, en cycle 4, en formation. Ça s'apparente un peu à ce qu'on peut faire en simulation. Et ces espaces peuvent être éphémères, puisqu'ils peuvent permettre de travailler des compétences très ciblées. Ils sont motivants par leur esthétisme et aussi par la nouveauté de modalités qu'ils apportent. Ça apporte du contexte et du cadre, le fait que ce soit bien présenté, ça donne envie. Mais il ne faut surtout pas s'arrêter à cela. Vraiment, leur efficacité, elle ne tient pas qu'à la beauté de l'aménagement de l'espace. Ça tient surtout, en tout cas c'est conditionné par la clarté des objectifs, par l'accompagnement et le suivi de l'enseignant. Et dernière petite précision, ça ne remplace pas le jeu libre puisque ça ne poursuit pas les mêmes objectifs, ça ne développe pas les mêmes habiletés, c'est juste autre chose, c'est un dispositif que vous pouvez ajouter à votre palette de dispositifs et de modalités à utiliser. Vous pouvez retrouver Mélanie Rambaud sur Instagram sur son compte Maîtresse Mélanie et vous retrouverez ses deux livres sur les espaces à scénario aux éditions Sésame. Ils sont illustrés par Cœur d'Artiflo et vous pourrez également vous procurer des coffrets de matériel déjà cartonné, plastifié avec tous les écrits dont les élèves ont besoin pour mettre en place ces scénarios dans vos classes. Et je vous mets toutes les informations en description de l'épisode. Merci pour votre écoute. Après « Gestion de classe, mode d'emploi », sachez que mon second livre consacré à la connaissance de soi est disponible. Il s'appelle « Enseigner selon son profil, mieux se connaître pour mieux enseigner » et je vous y partage plein d'exercices introspectifs pour cela. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes du podcast sur le site mestrucsdeprof.fr ou sur votre application d'écoute de podcast préférée. N'hésitez pas à laisser plein d'étoiles et des commentaires pour soutenir mon contenu et retrouvez-moi sur les réseaux sociaux LinkedIn, Instagram, Facebook pour suivre mes actualités. Et si vous n'avez pas envie de dépendre des algorithmes pour cela, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter mensuelle sur mestrucsdecoach.fr/newsletter. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.